France Inter. .fr.
On va pouvoir commencer ? Allons-y !
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Les Stuarts entre Angleterre et Écosse. Your Scotland,
your referendum. Alex Salmond, le Premier ministre écossais, a lancé une consultation pour l'organisation d'un référendum sur l'indépendance de la province en 2014.
Avant le sommet franco-britannique de ce 17 février, il y eut le 16, un sommet à Édimbourg entre Cameron et les nationalistes, maintenant majoritaires au Parlement d'Écosse. Cameron veut un référendum de suite avant que l'indépendantisme ne se cristallise. Et les nationalistes de Salmon, on entendait son nom il y a un instant, souhaitent attendre 2014 le temps que l'opinion mûrisse. L'époque des petits pays semble revenue en Europe. Ils seraient plus mobiles, plus doués pour créer à l'avenir de la prospérité. Mais il leur faut aussi réactiver leur histoire. Et de ce point de vue, l'Écosse, qui est riche en pétrole, en industrie de pointe, en services financiers, très bien dotée aussi. La celtitude, les clans, les tartans, bien sûr, et les Stuarts. À Londres, quand les deux royaumes étaient encore séparés, ils ont régné près de deux siècles. Mais leurs erreurs ont abouti à deux révolutions, 1642 et 1688. En revanche, en Écosse, c'est plus de quatre siècles qu'ils ont tenu. Et une fois écartés, ils ont su encore se faire regretter. Leur maladresse eut le mérite de révéler l'Angleterre à sa modernité politique. Leur grandeur, romanesque voire épique, réveille aujourd'hui encore en Écosse, un passé qui mobilise. Et qui a mobilisé aujourd'hui Jean Duchesne, bonjour.
Bonjour.
Qui vient participer à la marche de l'histoire. Vous avez enseigné pendant des lustres en classe préparatoire la civilisation anglaise. Et vous aimiez dire, j'imagine, à vos élèves, oh, la reine Elisabeth, 60 ans de règne, les Windsor, un nom nouveau, une dynastie tarvenue.
Oui, oui, les Windsor, ça date de la Première Guerre mondiale. Hein, mais en fait, c'était des Allemands, cette dynastie. Donc oui, c'était les Hanovres. Hein, à la fin des Stuarts, donc c'était les Hanovres, parce qu'on voulait un roi protestant. Et le seul prince protestant dans la descendance, ben, c'était un Allemand qui ne parlait même pas anglais, qui n'a jamais pu l'apprendre d'ailleurs. Mais c'est quand même, ça a été une ironie du sort, parce que comme le roi ne comprenait pas ce qui se disait en Conseil des ministres, ça a permis l'émergence du Premier ministre et d'un gouvernement, disons, un petit peu indépendant de la royauté.
Alors à propos de langue, vous allez nous dire quelle langue on parlait en Écosse pendant le très long règne des Stuarts, depuis la fin du XIVe siècle. Mais avant, ils venaient même pas d'Écosse, ils venaient de Bretagne, les Stuarts.
Ah, ils venaient de Bretagne, ils sont venus de Bretagne, en fait, avec Guillaume le Conquérant. Hein, l'origine de la dynastie des Stuarts, c'était un gars qui s'appelait Fitzalan. Ça veut dire le fils d'Alain, F-I-T-Z, hein, c'est un mot français. Alors, ce gars-là est devenu le sénéchal du roi d'Angleterre. Et sénéchal, ce qui a donné sénéchal en anglais, en français, c'est un mot d'origine germanique qui est donné Stuart en anglais. Et ça finit par se franciser d'ailleurs en Stuart. Donc, les rois d'Écosse, donc les Stuarts en particulier, alors c'est, au bout d'un moment, le sénéchal a fini par devenir roi.
Voilà. Et c'est ainsi que le nom de Stuart a été adopté pour désigner la famille régnante. Vous avez le droit de parler d'autres langues que l'anglais, c'était nécessaire d'ailleurs dans l'Écosse de 1500 pénétrer.
On parlait à peine anglais. D'abord, l'anglais lui-même existait à peine. L'anglais ne va exister véritablement qu'à partir de la Réforme. Où il va exister parce que la Réforme va lui donner le livre de prière commune, la traduction de la Bible et donc une littérature. Et donc ça va devenir une langue à ce moment-là.
Alors on parlait au nord le gaélique, sud de l'Écosse on parlait le scots.
On parlait plusieurs langues. Ah. C'était pas du tout un pays unifié. Il y avait plusieurs dialectes celtiques. C'était des tribus qu'on a appelées des clans qui, en général, si leurs voisins leur fichaient la paix, se faisaient la guerre entre elles.
Puisse cet an de grâce 1536 apporter la victoire au clan des MacLeod.
À l'attaque! Mort aux MacLeod!
Mort aux MacLeod!
Le film Le film Highlanders. Il y a les Highlands et puis il y a les côtes et les plaines de l'Est. Les Highlands sont plus marqués peut-être par la violence et moins marqués par le droit.
Ben, il y a plus de violence parce que c'est moins riche. C'est moins riche parce que c'est plus montagneux. Donc il y a moins de culture. Alors les lowlands, c'est pas plat, hein. C'est moins haut, tout simplement. Alors il y a des ondulations, mais enfin on peut cultiver un petit peu, et donc on peut cultiver un petit peu, il y a du blé, on peut même en vendre, donc on est un petit peu plus riche. Et puis c'est séparé, hein, des highlands par une espèce de canal qui coupe l'Écosse transversalement, à peu près au tiers de sa hauteur, quand on vient d'Angleterre, avec Édimbourg à droite, et puis Glasgow à gauche.
Il y a quoi, en 1500? Quand notre période va vraiment commencer, 1 million d'habitants au maximum. Mais enfin, on ne dénombre pas les Écossais.
Je crois qu'on ne peut faire que des estimations, il n'y avait pas de recensement à cette époque-là.
Le roi Henri VIII, Tudor, qui règne à Londres et qui a déjà écrasé les Écossais au début du XVIe siècle, en 1542, continue à s'obstiner à les considérer vraiment comme un petit royaume qu'on doit regarder de surplomb.
Mes seigneurs, nous avons remporté une éclatante victoire à Solwemos. Grâce à messieurs les comtes de Hertford et de Surrey, plusieurs nobles écossais furent capturés. Ils sont là, à notre disposition. Mais cela, mes seigneurs, n'est en rien la meilleure des nouvelles. Dérangé par sa cruelle défaite, le roi d'Écosse est tombé malade et il est décédé il y a 2 jours.
Oh, seigneur.
Ce jour-là, son épouse a donné naissance à leur seul enfant. Ce ne fut pas le fils et l'héritier qu'ils avaient espéré, mais une fille.
Excellente nouvelle, en effet.
Entre une reine qui vient de naître, une noblesse extrêmement querelleuse et la France qui les oublie.
Votre Majesté, je crois qu'il convient de voir en cela une intervention divine. Que Dieu en soit loué.
Effectivement, Dieu en soit loué.
Dieu soit loué.
Dieu en soit loué. Nous passerons un très joyeux Noël.
Henri VIII et ses conseillers, dans le film de Donnelly sur les Tudors de Londres, la France aurait oublié l'Écosse et serait devenue indifférente à l'Écosse. C'est un des traits permanents de l'histoire de l'Écosse, au moins avant le protestantisme, l'alliance avec la France.
Ah ben, la France n'avait pas tout à fait oublié. Et la meilleure preuve, c'est que cette petite fille, hein, dont on se demande si elle va pouvoir devenir reine d'Écosse, eh bien, les Français vont l'inviter à la cour du roi Henri II. Et elle va être élevée là-bas. Donc, ça sera la fameuse Marie Stuart. Mais cette Marie Stuart, elle est plus française qu'écossaise, en un sens. Elle parle français parfaitement, c'est là qu'elle a été élevée. Et elle est préparée, elle a toute une éducation pendant 15 ans pour être reine. Et puis, donc, elle épouse le roi, le jeune roi François II. Mais François II meurt et la voilà veuve à 18 ans.
Voilà, c'est.
Et du coup, 1560. Bah, on ne sait plus trop quoi faire d'elle en France. Alors, c'est là que les Français la laissent tomber. Et donc, il la renvoie chez elle. Mais il y a une vieille alliance entre les Français et les Écossais. Alors ça remonte au Moyen-Âge. Le meilleur exemple, c'est, je crois, le roman de Walter Scott, Quentin du Roard. Hein. Le Quentin du Roard, c'est quoi? C'est un mercenaire écossais qui va servir le roi Louis XI. Pourquoi? Eh bien, parce que traditionnellement, les Écossais n'aiment pas les Anglais. Hein. Ils se battent depuis des siècles. Les Écossais ont réussi à s'unifier après avoir battu les Anglais à Bannockburn en 1300 et quelques.
1314. C'est pour ça que le Premier ministre écossais veut faire le référendum en 2014. Fermons la parenthèse.
Voilà. Et donc, les Écossais et les Français ont tendance assez naturellement à s'allier contre les Anglais.
Walter Scott, on va retrouver son nom peut-être plus d'une fois dans cette émission. N'abandonnons pas la jeune veuve de 18 ans. Elle ne veut pas une position seconde en France où elle a été reine et elle retrouve son pays en 1560. Elle débarque simplement. Il y a eu un grand changement en Écosse pendant sa longue absence. L'Écosse est devenue protestante.
Dieu bénisse la reine d'Écosse, que voici enfin si près de son trône.
Tenez, chère sœur, voici votre palais de Holyrood.
Marie Stuart, Dieu vous détruira!
Qui est cet homme?
John Knox, madame, le chef de notre église.
De votre église, pas de la mienne.
Écoutez-moi, j'ai prié pour que cette reine meure avant de poser le pied sur cette terre. Regardez ce qu'elle amène avec elle, un prêtre! Mieux vaudrait qu'elle soit venue avec des troupes françaises! Elle va redonner courage aux papistes que nous avons chassés de ce pays. Une seule messe est plus redoutable que 10 000 soldats en armes!
Pas à mes yeux!
Vous justifiez la messe?
Je justifie l'église de Rome parce que je crois que c'est la vraie église de Dieu!
Partons.
Non, j'écouterai avec patience vos injures, monsieur John Knox. Sachez que comme tous mes sujets, vous aurez votre liberté de conscience et que j'aurai la mienne.
Dans le rôle de Marie Stuart, avant doublage peut-être, c'est...
Vanessa Redgrave.
Dans le film, je vous laisse faire les annonces.
Non, c'est dans le film de Charles Jarrett, en 1971, donc il raconte la vie de Marie Stuart, parce que la vie de Marie Stuart, c'est une vie tragique.
Oui, mais attendez, vous allez la raconter après, dans un instant, mais j'aimerais que vous nous éclaircissiez sur cette histoire de changement de religion.
Alors,
des Écossais, les catholiques ne sont plus que minoritaires quand arrive Marie Stuart.
Alors, il y a eu dans le XVIe siècle, c'est l'époque de la Réforme. Alors, la Réforme, elle va s'imposer en Angleterre, comme on le sait, de manière un petit peu baroque. À savoir que Henri VIII n'a pas du tout envie d'introduire la Réforme, mais il a envie de se remarier. Et le pape ne lui accorde pas l'annulation de mariage qu'il veut, parce que Charles Quint l'en empêche. Parce que c'est justement la tante de Charles Quint dont il veut se débarrasser. Alors du coup, il prend son autonomie, et sans le vouloir, il introduit la Réforme en Angleterre. Mais la Réforme, elle s'est aggravée. En ce sens que ce que Henri VIII installe en Angleterre, c'est, si vous voulez, une version anglaise du luthéranisme. L'anglicanisme, c'est quoi finalement ? Eh ben, c'est un gallicanisme, c'est-à-dire une église nationale qui prend son indépendance par rapport à Rome, mais qui ne va pas être extrêmement protestante.
Donc on est plus sérieux en Écosse, c'est conséquent.
Mais en Écosse, alors, ce sont des réformateurs plus radicaux, pas ceux de la génération de Luther, de la première génération, mais des émules de Jean Calvin. Français, natif de Noyon, grand réformateur de Genève, où il prend le pouvoir d'une main pour le moins ferme, si ce n'est parfois cruelle. Et donc, les presbytériens ou les calvinistes, alors on les appelle comme ça, les presbytériens, parce que c'est une église sans évêque, sans prêtre, sans sacerdoce. Et par conséquent, on a là, de manière bizarre, un des points d'histoire qui est les moins bien compris et connu, c'est que l'apparition de la démocratie en Europe au XVIe siècle se fait avec la radicalisation du protestantisme, parce que s'il n'y a plus de pouvoir sacré dans l'Église, il peut encore moins être sacré dans la société.
Ça va coûter cher aux Stuart, mais je vous laisse quand même la liberté de raconter d'abord les malheurs de Marie
Stuart. Quand Marie Stuart revient, un réformateur, qui est un émule de Calvin, John Knox, a pris le pouvoir. Et naturellement, le fait qu'il veuille que ce soit l'Église qui régente tout, le met en conflit avec la monarchie. Alors la monarchie écossaise, elle n'a jamais été très forte. Ça n'a jamais été une monarchie de droit divin, fortement unifiée, avec un souverain sacré, sacralisé, une personne totalement respectable. Non, c'est un chef de clan. C'est un primus inter pares. Et Marie Stuart se trouve donc affrontée à un courant où bien on réclame le droit de pouvoir discuter. C'est l'origine du Parlement. Et face au Parlement, la reine n'a pas le pouvoir, ne peut pas imposer sa volonté. En plus de ça, pour compliquer sa tâche, cette pauvre Marie, comme elle est veuve, n'est-ce pas, elle se marie avec un cousin. Cet cousin est un mufle parfait, qu'il ne la respecte pas, qui prend des maîtresses et qui veut imposer lui une autorité tyrannique. Et alors, elle commettra sa plus grave erreur, la première de ses graves erreurs, elle le fait assassiner.
Oui. Et la deuxième et la dernière, ça va être de se réfugier après une suite de complots et d'intrigues trop longues à raconter chez sa méchante cousine.
Sa méchante cousine, c'est pas sa méchante cousine. Elle, Marie Stuart, considère que sa méchante cousine est une usurpatrice. Ouais. Parce que par sa mère, si c'est bien une Stuart par son père, par sa mère, elle descend d'Henri VII Tudor, le père d'Henri VIII. Et donc, elle considère que, comme elle est en ligne directe, alors que Anne Boleyn, c'est elle que Henri VIII a épousé en se séparant de l'Église de Rome. Élisabeth, c'est la fille d'Anne Boleyn. Donc, c'est une bâtarde. Elle n'a pas de droit à la succession. Et donc, en fait, elles sont bien rivales. Et Marie Stuart pense que c'est elle qui devrait être la reine d'Angleterre.
Alors, si vous avez bien compris ces stratégies matrimoniales complexes, chers auditeurs, vous devinerez que, après qu'Élisabeth a exécuté Marie Stuart en 1589...
À regret.
Et qu'Élisabeth Tudor elle-même meurt. Elle est réputée vierge, donc elle n'a pas de descendance officiellement. Eh bien, son successeur, c'est un Stuart. Et alors, pendant un bref moment, enfin, qui a paru assez long aux Anglais, les Stuarts ont régné à Londres. Et la monarchie de Londres, elle est aussi peu sacralisée. Elle est aussi assez faible. Et les Stuarts vont devoir faire face à une, puis à
deux
une deuxième révolution.
Bah, c'est-à-dire qu'ils sont, dans une situation très inconfortable. Parce que ils veulent absolument imposer une monarchie absolue. Et ils voudraient qu'elle soit de droit divin. Mais voilà, le roi, le même qui est Jacques VI d'Écosse, le fils de Marie Stuart.
Oui, parce qu'il faut, chers auditeurs, que vous compreniez que le roi ne porte pas la même numérotation en Écosse
et en Angleterre.
Il porte une double couronne.
Donc il est Jacques VI en Écosse et Jacques Ier en Angleterre. Et pour ne rien arranger, il est chef de deux églises différentes. Puisqu'il est chef de l'église d'Angleterre, qui est épiscopalienne, qui a des évêques, et en même temps, il est chef de l'église d'Écosse, qui, elle, n'a que des anciens, des presbytes, puisqu'elle est calviniste. Alors, Jacques Ier, ou Jacques VI, alors, c'est quand même lui qui crée une certaine union, et c'est là l'origine du drapeau britannique, l'Union Jack. Jack, c'est lui, hein, le roi Jacques, dont on superpose les drapeaux gallois et anglais. Qui sont déjà unis depuis la fin du XIIIe siècle. Et on rajoute, en superposant le drapeau écossais, ce qui fait ce fond bleu aux deux croix, grecque et de Saint-André, rouge sur fond blanc, qui font les drapeaux, respectivement, anglais et écossais.
C'est Stuart qui occupe le trône à Londres, ou bien il meurt dans leur lit comme Jacques Ier, ou il meurt décapité comme Charles Ier, en 1649, où ils meurent un peu discrédités parce qu'ils n'ont réussi à tenir leur position que très cyniquement, comme Charles II, ou bien, alors comme Jacques II, le dernier, eh bien ça se termine
c'est pas le dernier,
très mal. Attendez, pour l'instant, on va dire que c'est le dernier Stuart catholique qui tient la double couronne. Alors, il est déjà vieux, il affiche un fils nouveau-né. Vous suivez toujours, chers auditeurs, sa fille Marie est mariée avec Guillaume d'Orange aux Pays-Bas. Elle trouve quand même tout à fait détestable de devoir être dépassée dans l'accès au trône. Et avec l'appui des sujets protestants de Jacques II, eh bien, le couple, Guillaume III d'Orange, Marie, fille de Jacques II, entre dans le pays et chasse le malheureux Jacques II.
Vraiment, ils se sont soulevés et ont chassé cette brute de Jacques II ?
Oui, il s'est sauvé en France et il se cache là-bas.
La face du monde s'en trouve transformée. Nous étions esclaves ensemble. Vous et moi sommes désormais libres. Nous avons de nouveau un foyer et un pays. Vous êtes tous des Anglais. Et un mauvais roi est un mauvais roi. Il n'y en a pas de pire que Jacques II.
Jacques II a été chassé d'Angleterre et il a été remplacé par Guillaume III.
Sa Majesté Guillaume III, prince d'Orange, qui, avec la reine Marie, est venu des Pays-Bas et règne sur l'Angleterre depuis au moins 3 mois.
Eh bien, il n'y aura plus de Stuart catholique à Londres.
Jacques II ne s'est fait catholique pendant son exil en France.
Oui, d'accord. Mais enfin, il était exilé en France, il est fourré à la trappe.
Qu'est-ce qui déclenche la révolution ? C'est qu'il considère qu'il est déjà vu, il a plus de 40 ans. Et voilà que cet imbécile se remarie. Et que sa nouvelle reine, qui est catholique, lui donne un fils. Et le gamin est baptisé par un jésuite. Et c'est ça qui déclenche la fameuse glorieuse révolution. Et Jacques II, qui montre bien qu'il n'a pas tellement de ressort, simplement prend peur très rapidement et fuit. Et donc il est remplacé par sa fille, qui a épousé le pire ennemi de Louis XIV. Et lui, il se réfugie chez qui ? Chez Louis XIV.
Mais alors attendez, sa fille, c'est une Stuart encore. Alors, il va y avoir Marie, épouse de Guillaume III, et puis encore une reine qui s'appelle Anne. Et là, ce sont toujours des Stuarts, mais des Stuarts protestants qui règnent à la fois sur Londres et sur Édimbourg. Oui. Et c'est là que la double couronne fait place à l'acte d'union.
Voilà, l'acte d'union de 1607. En fait, c'est l'acte
1707, Jean Duchesne.
Ce ne sont pas l'acte d'union des deux couronnes qui demeurent distinctes, c'est l'acte d'union des deux parlements.
Ah.
Les deux parlements d'Édimbourg et de Londres décident de siéger ensemble. Et à partir de moment-là, évidemment, étant donné l'importance de plus en plus grande que va prendre le Parlement dans la vie politique anglaise, eh bien, l'unité ou l'union, au moins entre les deux pays, va se réaliser presque irrésistiblement.
Et l'Écosse devient britannique. Ça ne veut pas dire que c'en est fini des autres Stuarts. Mais je pense qu'une petite pause est nécessaire. Vous nous avez raconté les histoires d'amour de Jacques II, qui, bien qu'il ait voulu finir dans les habits d'un saint, avait eu beaucoup de mariages d'amour et de maîtresses. John Baez.
The water is wide, I cannot get over, neither have I wings to fly. Give me a boat Stan Oak, thinking it was a mighty tree. But first it bent, and then it broke. So did my love prove false to me.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Jean Duchesne qui nous a donné il y a peu une petite histoire d'Anglo-Saxonie aux presses de la Renaissance. Le thème aujourd'hui, les Stuarts, l'éternel retour. Oui, parce que à Londres, maintenant inaccessible pour les Stuarts catholiques, règne une branche. Mais fin 17e, début 18e, Jacques II, détrôné, installé où par Louis XIV en
France ? À Saint-Germain, au château de Saint-Germain.
Il est là entouré de, il faut bien imaginer le nombre, 40 000 jacobites, ses partisans.
Les jacobites sont les partisans du roi Jacques, on prend le nom hébreu. Et ces gens-là ne rêvent que d'une chose, c'est de reconquérir l'Écosse. Alors donc, on cherche de l'argent pour lever des troupes, monter des expéditions. Alors il y a une tentative, en général, l'idée c'est qu'on ne va pas attaquer directement par l'Angleterre. Donc l'idée c'est de débarquer en Écosse, mais auparavant en levant des troupes en Irlande. Alors en jouant sur une ambiguïté, parce que les Irlandais sont catholiques, donc ils sont pour les Stuarts qui sont catholiques. Et puis, il reste quand même en Écosse pas mal de catholiques. Hein. La réforme s'est imposée, elle a pris le pouvoir, mais il reste une minorité sensible, appréciable de catholiques. Alors, toutes ces tentatives vont échouer plus ou moins lamentablement. Néanmoins, il y aura quand même des armées qui réussiront à prendre pied. Alors, elles vont d'abord en Irlande, et puis après, elles traversent un petit bras de mer, de rien du tout, entre Belfast et Glasgow. Et on cherche l'armée anglaise pour essayer de la tailler en pièces et donc d'affirmer, en quelque sorte, l'impossibilité pour Londres de contrôler militairement l'Angleterre.
En Écosse, les élites sont divisées. Par exemple, ici, nous sommes en 1715, quand commencent des émeutes, peut-être une insurrection nationaliste, et deux hauts seigneurs écossais, qui sont toujours querelleurs, les nobles écossais, disait Henri VIII, s'opposent.
Mes rapports disent qu'Argyle est un jacobite déclaré et qu'il prendrait parti pour le Stuart s'il rentrait d'exil pour réclamer le trône.
Ce sont des informations inconnues de moi, Milord.
Tant que diable, monsieur ! Vous et votre clan êtes des partisans des Stuarts depuis le berceau. John, vous avez l'air fâcheux de l'homme qui veut en découdre.
Je vous demande, monsieur, de savoir rester à votre rang. Je ne vous permets pas vos familiarités.
Votre grâce.
J'ai appris qu'à la cour vous répandiez mon nom comme celui d'un jacobite, prêt au soulèvement si le Stuart débarquait ici pour réclamer le trône.
Les grands personnages attirent les rumeurs comme les mouches sont attirées par la merde.
C'est vous la merde, Montrose, et les mouches vos compagnes. Que votre puanteur n'atteigne pas mon nom, ou par Dieu, je vous taillerai en pièces comme vos petits arbres châtrés.
C'est une adaptation pour la télévision française du Maître de Ballantré de Stevenson par Abderrisker, le Maître de Ballantré qui dure des tomes et des tomes pour raconter les démêlés de la vie politique en Écosse, agitée par les Stuarts en exil au XVIIIe siècle. Oui. Dites donc, c'est violent, hein ?
Ah ben oui, c'est violent parce que, y a vraiment un pays qui est mal contrôlé. Vous avez une rébellion qui n'accepte pas le protestantisme, qui n'accepte pas le pouvoir des Anglais, qui veut retrouver une espèce de d'indépendance, de liberté. Et à ce moment-là, eh bien, c'est un des rares pays qui soit menacé de guerre civile. Hein, parce que ces soulèvements, c'est pas seulement un souverain ambitieux qui veut venir reconquérir son trône, ce sont de véritables guerres civiles.
Mais guerre civile, ça veut dire qu'il y a des partisans de l'Angleterre, justement dans les élites, qui disent il y a beaucoup de choses à faire grâce à l'unification du pays, grâce aux routes qu'on construit, au commerce auquel on peut participer.
Alors, ce qui peut faire renoncer au nationalisme chez les Écossais au XVIIIe siècle, c'est assez nettement l'idée qu'il faut être protestant. Et qu'il vaut mieux s'allier avec les protestants parce que ça signifie un minimum, une garantie de liberté. Alors que, avec les Stuarts, avec des gens qui se réclament du catholicisme, eh bien, on va avoir la monarchie absolue de droit divin, et ça, c'est pas supportable.
Oui, Jacques II, qui s'était exilé en France, s'était affiché comme catholique. Son fils, le vieux prétendant, lui s'installe à Rome, carrément, chez le pape.
Jacques III.
Et alors, le fils du vieux prétendant, le jeune prétendant.
Alors, c'est le fameux Bonnie Prince Charlie.
Il part aussi de Rome, enfin, via Dunkerque, et en 1745, là, on entre dans une histoire extraordinaire, Jean Duchesne, il pose le pied en Écosse, il réussit à gagner Édimbourg.
Absolument, il prend Édimbourg, donc c'est bien une guerre civile. Hein, c'est de retour. Alors, il s'appelle Bonnie, ça veut dire quoi? C'est son, donc il s'appelle Charles-Édouard de son véritable nom, mais Bonnie, ça veut dire qu'il est beau comme, il est joli comme un cœur. Hein, c'est un petit jeune homme, absolument charmant. Les dames le trouvent irrésistible. Il est gentil. Donc c'est le héros idéal. Alors le problème, c'est que ce n'est pas un génie militaire. Et que, eh bien, ils ne disposent pas non plus de parce que les Français ont dit qu'ils le soutiendraient, mais enfin, ils n'ont jamais allé très très loin. Ils n'ont jamais vendu leurs bijoux pour soutenir le Bonnie Prince Charlie et l'histoire. Et donc, il va se faire tailler en pièces en 1745 à la fameuse bataille de Culloden, où il est battu par le duc de Cumberland, qui est le fils même du roi d'Angleterre de l'époque, qui est George II de Hanovre.
Alors là, on est au nord de l'Écosse, alors qu'il a poussé un moment à 2 ou 3 jours de marche, beaucoup plus au sud, à côté de Londres. Taillé en pièces, mais quand même sauvé. Il va errer. Alors ça, c'est ça la légende. Il va errer, hébergé par des pêcheurs, des bergers, des bonnes dames. Personne ne le dénonce. De Locke, en île, par exemple, l'île voilà, de
Skye. C'est la même histoire qui était arrivée à son ancêtre Charles II. Qui avait aussi tenté de reconquérir l'Écosse après l'exécution de son père. Et lui, c'est encore plus beau, il s'était déguisé en fille pour échapper aux poursuites.
Speed, bonny boat, like a bird on the wing. Onward the sailors cry. Carry the lad that's born to be king. Over the sea to sky.
Casse-noire au navel you flew. Send to the stupid. Ah, no, I be.
Stivell, qui chante Bonnie Prince Charlie, 40 ans après son grand concert historique, il revient à l'Olympia. Puis c'est normal qu'on entende un Breton, parce que qui a exfiltré Bonnie Prince Charlie après toute cette expédition? Ce sont 2 bateaux de Saint-Malo. Tout ça pour qu'il meure
à Rome.
Beaucoup plus tard, oui, à Rome, mais encore.
Alcoolique.
Dépressif.
Dépressif, voilà. Mal marié.
Oui, comme souvent le steward, d'après
voilà,
ce que vous dites.
Oui, oui.
Mais alors, chaque fois qu'on est en Écosse, maintenant, on voit vendre aux touristes les souvenirs de Bonnie Prince Charlie. Et puis son nom doit appuyer le combat pour l'indépendantisme des nationalistes écossais aujourd'hui.
Oui, parce que, si vous voulez, les steward, c'est le symbole de l'indépendance de l'Écosse. Lorsque, finalement, Bonnie Prince Charlie revient... c'est pour s'emparer de l'Écosse, c'est pas pour redevenir véritablement roi d'Angleterre. Hein. C'est d'abord l'Écosse. Ce qui se passe, c'est que les Stuarts détrônés font un choix. Ils disent, voilà, nous, notre pays, notre origine, c'est l'Écosse. Les Anglais ne veulent plus de nous, peut-être, mais l'Écosse, ça demeure notre pays. Et l'Écosse, c'est nous. L'Écosse, donc, a besoin de nous. L'Écosse ne serait pas tout à fait ce qu'elle doit être, ce qu'elle peut être sans nous.
Mais ce qui a changé depuis l'époque des Stuarts, c'est que maintenant, l'Écosse est plus riche que
l'Angleterre. D'abord, il y a plus de Stuarts.
Oui. Il n'y a plus de Stuarts, ils se sont éteints en 1807. Et puis, il y a beaucoup plus de pétrole, il y a beaucoup plus d'électronique, il y a beaucoup plus de services financiers.
Voilà. Ouais.
Au fond, le Nord n'a plus besoin du Sud, maintenant?
Non. Le Nord n'a plus besoin du Sud. Mais ce qui s'est passé, c'est que, je crois, l'Écosse, maintenant, pense qu'elle peut voler de ses propres ailes. Elle n'a plus besoin de l'Angleterre. Elle en a eu besoin au 19e siècle, Les Écossais ont servi, en quelque sorte, à la conquête et à l'administration de l'Empire. Maintenant, l'Empire, c'est fini. Donc, les Écossais peuvent reprendre leur indépendance.
Enfin, attendez, le référendum, Cameron, le Premier ministre anglais, le veut assez vite, et le Premier ministre écossais le veut assez tard. Mais il est temps de finir, il est 14h. Vous écoutez France Inter, cette émission a été préparée par Franck Olivard, avec à la technique Frédéric Boeuf et Michel Bézikian, à la réalisation Jacques Sigal.